Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Il y a forcément, à un moment donné, dans ta vie d'homme aussi, une période où tu sens qu'il est temps de raccrocher les gants et de laisser la place aux jeunes, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. J'avais pas trop envie finalement d'aller dans un bureau et justement de regarder les copains partir. Du coup, le jour où je me suis plus retrouvé opérationnel, c'était la marine en fait. Bah, les peurs, c'est tu lâches, on va dire, de la stabilité pour l'inconnu. Donc voilà, mais c'est aussi ça qui est aussi un peu exaltant.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Julien et sa compagne étaient en voiture et écoutaient « Pourquoi pas moi ?» À la fin de l'écoute de l'épisode, sa compagne lui a dit « Mais c'est exactement comme toi !» Merci du fond du cœur, Julien, d'avoir pris contact avec moi pour nous raconter ton histoire et ton parcours hors du commun. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je ferme la parenthèse. Julien n'était pas vraiment travailleur ni bon élève. Alors qu'il a fait un BEP conchiculture, un hasard de la vie le met sur le chemin de la marine. Il intègre donc l'école des fusiliers marins et embarque ensuite dans les forces spéciales, l'unité d'élite. Julien y restera pendant 22 ans. Mais Julien a rapidement compris que 40 ans est un virage dans la vie d'un homme et d'autant plus pour un militaire. Il a donc cherché sa nouvelle voie et la sophrologie s'est imposée à lui. Aujourd'hui, Julien est sophrologue et préparateur mental. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Julien Quesnois.
Bonjour Julien.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter et plus exactement, je crois, les objets?
J'ai fait un combo en fait parce que c'était un petit peu compliqué pour moi de choisir parce que c'est vraiment deux choses qui étaient importantes dans ma vie. C'était dans un premier temps donc mon béret vert, béret vert commando marine. Ça c'est vraiment ça représentait une grande part de ma vie jusqu'à présent en tout cas. Donc voilà, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'était le premier livre que j'ai pu lire sur la sophrologie qui est sophrologie pour les nuls. C'est un bouquin que j'avais trouvé dans une grande librairie nationale. Au détour, je cherchais un bouquin sur les assouplissements, le yoga et tout ça. Et finalement, je suis tombé sur ce bouquin-là. Et vu que j'étais déjà assez sensible à ce type de pratique, je me suis dit je vais le prendre avec moi dans mes bagages parce que je partais en mission.
Ouais.
À ce moment-là, et je me suis dit je vais prendre ce bouquin-là, comme ça ça sera un truc en plus à lire, et ça, je pense que ça a joué un rôle important pour la suite des événements.
On peut dire où tu étais parti en mission, c'est Secret Défense?
Je partais 4 mois au Mali, et donc je faisais le plein de lectures. Et vu qu'à ce moment-là j'avais des douleurs un peu partout dans le corps, des trucs musculaires, donc je voulais prendre un bouquin sur les étirements, etc.
Ouais.
Et puis finalement je suis parti avec un bouquin sur les étirements qui était d'ailleurs super et un bouquin sur la sophro, voilà.
Donc, et ça c'est quelque chose que tu faisais à chaque fois que tu partais en mission, d'aller à la bibliothèque récupérer des livres?
j'allais en règle générale quand je partais en mission, j'essayais toujours de partir avec un ou deux bouquins.
Ouais.
Plus ça, mon ordi, plein de séries et c'est parti.
Ouais. On va en parler du coup de à la fois la sophrologie et à la fois ta vie d'avant dans la marine. Est-ce que tu peux nous raconter déjà où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi?
Ouais. Alors moi je suis né à Sainte-Adresse du côté du Havre.
OK.
Voilà et puis bon j'y suis pas resté très longtemps parce que mes parents ont assez rapidement décidé de descendre dans le sud-ouest. À Périgueux et là pareil on n'est pas resté très très longtemps et là ensuite mon père a trouvé un boulot du côté de Bordeaux on va dire grosso modo et puis bah là j'y suis resté pendant un bon moment jusqu'à ma troisième où là je me suis retrouvé en pensionnat et je suis reparti au Havre et voilà.
T'es retourné au Havre pour le pensionnat?
Ouais, je me suis retrouvé au Havre du côté à Pont-Audemer.
Ouais.
Dans un truc privé, un peu à l'ancienne, tu vois, genre les choristes, ça fait rêver. Ouais, je me souviens d'un grand dortoir. On était une cinquantaine de gars là-dedans. Ça fait rêver. Ouais.
Et pourquoi t'as atterri là-bas? Pourquoi t'as atterri dans un pensionnat?
Parce que à ce moment-là, mes parents étaient en plein divorce, c'était un peu compliqué. Moi, je partais un petit peu en cacahuète aussi à ce moment-là, donc il me fallait retrouver un petit peu des marques un peu plus solides, on va dire. Et puis ma grand-mère a dit à ma mère, oh bah t'as qu'à l'envoyer à Pont-Audemer, ses oncles ils sont passés, ils sont pas morts. donc
mamie.
Voilà. Ouais, merci mamie. Et donc je me suis retrouvé là-bas. Donc la semaine j'étais en pensionnat à Pont-Audemer et puis le week-end j'étais du côté du Havre chez mes grands-parents et ouais. Je redescendais pour les vacances vers Bordeaux profiter de un coup de mon père, un coup de ma mère.
Et comment tu l'as vécu ça du coup de plus voir tes parents parce que quand on est en troisième, on est quand même pas si vieux que ça. Hein. On pense qu'on est grand, mais en soi, on l'est pas tant que ça.
Comment je l'ai vécu je dirais, c'était un petit peu une surprise pour moi parce que je m'y attendais pas forcément parce qu'on me l'a imposé. C'était un peu une surprise à laquelle j'étais pas forcément favorable, donc j'y allais un peu à reculons. Mais finalement, très rapidement, j'ai trouvé mes marques. Et puis après, bah, c'était plutôt sympa parce que le pensionnat, moi, j'ai vite adhéré à ce style de vie, on dirait, je sais pas si je puis dire. Et puis j'ai vite trouvé mes marques et finalement, c'était une super année, c'était chouette. J'ai appris plein de trucs, j'ai fait pas mal de bêtises. c'est ça la vie d'interne. Non, mais c'était franchement chouette. Moi, j'en garde un excellent souvenir en tout cas, même si c'était un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que en gros, t'avais un cumulus de 50 litres pour je sais pas combien de gars qui devaient se doucher. Donc autant dire que si t'étais pas dans les quatre premiers, bah tu te douches à l'eau froide. L'hiver, c'était un grand dortoir et l'hiver il y avait pas particulièrement de chauffage, donc autant dire que dans les conditions étaient un peu rudes. Ouais. Mais sinon c'est un excellent souvenir.
Et tes parents ont beaucoup bougé géographiquement. Qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils font toujours d'ailleurs comme travail?
Non, ils ont pas énormément bougé parce que assez rapidement finalement on s'est retrouvé du côté de Bordeaux.
Ouais.
Et ils y sont toujours en fait.
D'accord.
Donc non, ils ont pas bougé. Mais lui, mon père, lui, il était plutôt dans la vente et puis ensuite il s'est retrouvé dans l'événementiel, on va dire pour une grosse marque.
Okay.
Donc il bougeait plutôt pas mal. Dans tout le sud de la France, ce qui lui allait bien finalement parce que ça lui plaisait vraiment son job. Maintenant aujourd'hui il est à la retraite là depuis un an ou deux là. Voilà et ma mère elle s'est retrouvée à travailler conseil général régional etc. Donc pareil elle est restée sur Bordeaux et puis voilà.
D'accord. Et toi, quand tu étais petit, tu étais quel type de petit garçon?
Alors, je pense que j'écoutais pas trop mes parents. C'est du moins le souvenir que j'en ai. Après, peut-être que mes parents tiendraient un autre discours, mais je pense que j'étais un peu dissipé. Voilà. Mais en fait, j'écoutais quand ça m'intéressait. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Quand ça m'intéressait, je pouvais faire preuve de beaucoup d'attention. Et puis sinon, je partais vite à droite à gauche, quoi.
Ouais.
Voilà. Et puis, mais sinon, je crois me souvenir que je devais être plutôt sympa. Ouais.
Et quand tu avais 6-7 ans, tu te disais, c'était quoi, enfin, quand je serais grand, c'était quoi tes rêves?
J'ai pas souvenir d'avoir eu de rêve particulier, mais alors ma mère te dirait le contraire. Ma mère te dirait que pour elle, quand je lui ai dit que je m'engageais, c'était évident.
Ouais.
Parce que quand j'étais petit, je dessinais des militaires, des soldats, des avions, des bombes, des trucs voilà, de gamin un peu séduit par ce côté armé, etc.
Ouais.
Mais moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu de rêve particulier.
D'accord.
Voilà. Tu vois, j'ai jamais été passionné par un truc, fan d'une star ou gouroutisé ou ouais. j'aime tout en fait. Ouais. J'aime beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. Voilà. Mais après, je me souviens pas avoir eu non de rêve. Tu sais, il y en a, ils sont tout petits, ils savent qu'ils veulent faire ça, et voilà. Et s'ils y arrivent, bah, c'est super, tant mieux. Mais moi, j'ai pas ce souvenir-là, en tout cas. Non.
Ouais. Et du coup, à partir de quand est né, en tout cas, ta conscience et ton envie de devenir militaire?
Figure-toi que. À l'époque, j'étais en BEP. Ouais. J'étais plutôt un bon gros branleur. et ça, je pense que mes profs pourraient te le confirmer. Et en fait, j'ai un ami qui m'a dit à ce moment-là, lui, il en avait marre du lycée, etc., etc. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et il m'a dit, je vais aller me renseigner parce que je vais devancer l'appel. Il avait 18 ans passé et il voulait devancer l'appel et partir faire son service militaire. Lui, il voulait partir faire 2 ans, un service long et puis voilà. Et il me dit, est-ce que tu veux m'accompagner au bureau de les bureaux de recrutement? Je dis bah ouais, pourquoi pas. Toujours prêt à découvrir de nouveaux trucs, donc ouais, je t'accompagne, pas de souci. Et voilà, et en fait je l'ai accompagné, et quand je suis reparti de ce truc là je me suis dit mais en fait il y a plein de trucs à faire, parce qu'on avait été dans un bureau de la Marine nationale, un bureau de recrutement de la Marine nationale, et en fait quand je suis ressorti moi de ce truc là donc lui il était pas du tout convaincu en fait, et moi je me suis dit mais en fait il y a plein de trucs à faire, et ça me parlait vraiment, et de là je me suis dit pourquoi pas en fait,
pourquoi pas moi.
Ah ouais, voilà, pourquoi pas moi. Et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, c'est parti quoi.
Et donc là, ça se passe comment quand tu décides T'avais quel âge du coup à cette époque-là?
J'avais en gros, j'avais 18 ans quoi.
Ouais. Tu sors de ce rendez-vous. Ça se passe comment concrètement? Tu t'attends un petit peu? T'en parles à tes parents?
Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ça, c'est une décision, pour le coup, vraiment solo. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'était, voilà, c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et puis, ça m'a plus quitté, en fait. Donc là, j'ai commencé à faire mes démarches, ouais. Tranquillement, sans rien dire à personne. Et puis voilà, ouais, j'ai commencé à mettre le doigt dedans comme ça, en fait, à me renseigner, à faire mes démarches, voilà. Et puis au bout d'un moment, quand ça devenait un peu plus concret, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dû dire à ma mère, entre l'entrée et le plat de résistance, tiens, en fait, je m'engage. Et là, ma mère, d'accord, ok, mais comment ça? Et puis j'ai dû dire, oui, là, j'ai commencé à faire des démarches auprès de avec la marine nationale, donc Donc je m'engage. Les démarches sont lancées. Après, je pouvais toujours faire demi-tour. Hein. Il était encore temps de dire non entre guillemets. Mais voilà. Donc, ça s'est fait. En gros, ça s'est fait comme ça.
Quoi. Et elle est restée quoi entre guillemets. Mais est-ce qu'elle a essayé de te dissuader de ce choix?
Non, pas du tout. Au contraire, c'était mon choix. Je pense qu'elle a dû voir que c'était quelque chose qui était réfléchi. Après moi, j'avais parce qu'à cette époque-là, il me semble qu'il y avait encore la possibilité d'avoir ou des contrats de 3 ans ou des contrats de 5 ans quand tu t'engageais. Et moi, j'avais fait le choix de demander un contrat de 3 ans. Parce que je m'étais dit de toute façon au pire tu signes pour 3 ans, ça va, c'est pas ta vie non plus, hein, tu mets pas toute ta vie dans la balance, donc et puis dans le pire des cas, au bout de 3 ans, si ça te plaît pas, hop, retour à la vie civile, et puis voilà. Donc, je pense qu'elle elle a perçu que c'était réfléchi. Ouais. Pour une fois, je faisais un truc réfléchi. Donc, elle m'a encouragé, quoi. Elle a dit vas-y, continue.
Et ton père?
Mon père, à ce moment-là, on était un petit peu en rupture, on va dire. Donc, en gros, il s'est un peu retrouvé devant le fait accompli. Et puis, c'était comme ça. Et puis, de toute façon, ma décision était prise. Donc, voilà. Il n'avait pas le choix, quoi.
Ouais. Et il y a des études à faire. Comment ça se passe concrètement quand tu décides de rentrer dans la marine?
À cette époque-là, quand tu voulais rentrer dans la marine, tu avais des tests où ils évaluaient ce qu'ils appellent le niveau de culture.
Ouais.
C'était des tests d'évaluation.
Ok.
Ça partait d'un niveau très basique à un niveau assez élevé finalement.
Ouais.
Tu te trouvais quelque part là-dedans où t'avais 4 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, je sais plus trop où je m'en étais sorti, 3 je crois, quelque chose comme ça, 3 ou peut-être non 3, il me semble que c'est ça, 3. Et puis voilà, et puis après tu partais faire une visite médicale. Alors à l'époque c'était à Limoges, donc c'est pareil, c'était toute une aventure pour aller là-bas. Et puis ça suit, tu as des convocations un coup à droite, un coup à gauche. Et puis petit à petit ton dossier se montait, et puis un beau jour on me disait le dossier est complet, maintenant ça part à Paris, et puis il y a une prise de décision, et puis tu recevras une convocation, et puis voilà quoi.
Et quand tu as reçu le papier en disant que c'était bon, que tu étais pris, comment ça s'est passé?
J'étais super content. En gros, ça a pris quasiment peut-être pas tout à fait un an, mais bien 8 mois pour monter tout le dossier.
Assez long.
C'était assez long. Je me souviens que c'était assez long. Quand j'ai reçu ma convocation, je me souviens, tu vois, la date, c'était le 9 janvier 96. Il fallait que je sois à Kerqueville. Donc j'avais.
Où est-ce Kerqueville?
Kerqueville, c'est du côté de Cherbourg.
Okay.
C'était l'école dans laquelle tu intégrais la marine nationale, donc tu apprenais les trucs de base de la marine nationale, voilà. Et donc dans cette convocation, j'avais ma convocation, un billet de train, et puis voilà quoi. Et puis venez comme vous êtes.
Il n'y avait pas encore le béret.
Pas encore le béret. Le béret était encore très très loin là.
Ouais.
À ce moment-là. Ouais, non. Donc là tu partais à Kerqueville. Tu y passais, à l'époque c'était 2 mois, et tu apprenais les trucs de base pour rentrer dans la marine. Donc tu apprenais ça paraissait déjà énorme, mais en fait c'était vraiment très très basique. Tu apprenais à marcher au pas, tu apprenais à saluer, tu apprenais les rudiments de
la vie militaire.
D'une vie militaire, ouais. Dans la marine nationale quoi.
Et si tu n'avais pas été pris, c'était quoi ton backup?
Eh ben moi je passais à ce moment-là un BEP en conchyliculture, donc tu vois, c'est tout l'élevage des coquillages, donc
okay.
les moules, tous ces trucs là, donc tu vois, voilà. C'était chouette, hein. Moi j'ai passé j'ai d'excellents souvenirs, mais voilà, c'était pas, je pense, tu vois, c'était pas le truc qui me faisait vibrer quoi.
Et comment on tombe, enfin, parce que c'est quand même pas le truc le plus généraliste possible, l'élevage de conchyliculture, j'arrive même pas à le prononcer.
Ouais, ouais. C'est ça. Alors ça, c'est pareil, tu vois, c'est issu de troisième, mon année de pensionnat, qui allait normalement, selon ma grand-mère en tout cas, me remettre dans le droit chemin. À la fin de cette année, qui a été une année exceptionnelle, où j'ai bien glandé, en gros, on m'a dit, bon, écoutez, monsieur Quesnoy, c'est bien, mais les études, c'est pas fait pour vous, en fait. Donc, il va falloir trouver une autre façon d'apprendre les choses. Il fallait trouver autre chose. Et ma mère, à cette époque-là, avait entendu parler d'un lycée qui était sur le bassin d'Arcachon, où il y avait des BEP, etc., etc. Elle s'est dit que ça pouvait être une voie intéressante pour moi. Et elle m'a dit, je crois que de mémoire, en gros, elle m'avait dit, tiens, regarde ce qu'il y a dans la brochure, choisis un truc, et puis voilà. Et puis en gros, j'avais vu ça et j'avais dit, allez banco, on va aller là-dedans. Un peu, quelque part aussi, peut-être un peu vexé, tu vois, de qu'on me dise, les études, c'est pas fait pour vous. Ouais. Tu vois, j'étais un peu piqué au vif, mais comment ça, je comprends pas. Ils avaient raison, c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi.
Donc du coup, t'as abandonné ton BEP pour pouvoir rejoindre la marine?
Ah non, parce que figure-toi que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit mais monsieur, on vous prendra pas si vous avez pas au minimum votre BEP.
OK.
Donc là, l'objectif numéro un pour moi, c'était de décrocher ce BEP.
Ouais.
Alors je sais pas si c'était de l'intox ou pas, mais en tout cas bon, j'ai eu ce BEP du deuxième fois au final.
Ouais.
Parce que même, tu vois, le premier coup, je l'avais loupé.
D'accord.
Donc à la deuxième fois, deuxième tentative, je l'ai eu, parce que là, je pense que j'avais vraiment pour objectif de rentrer dans la marine, donc il me le fallait absolument, donc j'ai bossé pour.
Ouais.
Et voilà. Donc,
c'est rigolo.
J'avais en poche. Et
c'est rigolo parce que la marine, la conchi, ouais, hop, on a compris. J'arrive pas à prononcer le mot. tout s'est tourné vers la mer.
Ben ouais. La mer, moi, pour moi, ça a toujours été quelque chose de d'important. Alors la mer, la nature en règle générale.
Ouais.
De toute façon, moi, tu vois, je suis également instructeur en survie, en vie et en survie en pleine nature. La nature, ça a toujours tenu une très grande place dans mon cœur, dans ma tête. Donc ça, et la mer en particulier.
Ouais. Donc, et une fois que tu intègres du coup la marine, comment ça se passe comment on arrive et on arrive jusqu'à aux forces spéciales, qui est quand même un des meilleurs régiments. Je suis pas une experte en militaire.
Tu passes ces épreuves après épreuves.
Ouais.
C'est-à-dire que après Carqueville, tu partais à Lorient, où là tu faisais ta spécialisation de fusilier marin.
De quoi?
De fusilier marin.
C'est quoi?
Fusilier marin, c'est des unités de la marine nationale qui s'occupent de tout ce qui va toucher à la protection et à la défense des unités, des bases, des bateaux, etc., etc. Et ensuite tu pouvais prétendre à passer le stage commando pour devenir commando marine. Voilà.
Et ça consiste en quoi du coup d'être commando marine?
Alors donc là, quand t'es commando marine, tu fais partie des forces spéciales.
Mm.
Les forces spéciales, c'est un outil qui est dans la main du politique.
Ouais.
Et les forces spéciales, si je devais comparer ça à un outil, je dirais que c'est l'outil le plus fin, finalement, du chirurgien. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu dois couper un truc, tu peux prendre une tronçonneuse, tu peux prendre une scie, et tu peux prendre ton outil le plus tranchant et le plus efficace. qui est le petit scalpel, voilà. Et ben, si je puis dire, les forces spéciales, c'est un peu ça. C'est vraiment t'es l'outil le plus fin,
le plus discret,
le plus voilà, le plus discret, le plus efficace entre guillemets de l'armée française.
D'accord.
Alors après, il n'y a pas que les commandos marines, il y a aussi des unités des forces spéciales dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air.
Ouais.
Voilà, mais en tout cas, c'est des outils qui sont très performants et puis voilà, et puis qui doivent être maniés avec soin par le politique.
Ouais. C'est un truc, ça te faisait rêver d'intégrer les forces spéciales ?
Même pas. même pas, parce que en fait, moi, quand je me suis engagé, je me suis dit, oh bah fusilier marin, ça a l'air sympa. Voilà. Et puis quand je suis arrivé à Lorient, moi, je connaissais pas les forces spéciales. J'en avais vaguement entendu parler, mais pas plus que ça. Ça m'avait pas plus parlé que ça, en fait. On en parlait très peu à l'époque. Donc voilà. Donc j'avais finalement assez peu entendu parler. Et moi, quand je suis arrivé à Lorient, mon objectif, moi, on m'avait parlé que des fusiliers marins, et donc mon objectif, c'était voilà, d'être fusilier marin.
Ouais.
Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, le tout premier jour, y a les instructeurs qui arrivent, qui se présentent rapidement, machin. Et là, tout de suite, ils commencent par dire, OK, qui est volontaire commando ? Et là, il y a tous les gars qui lèvent la main. Il y a quasiment 100% des gars qui lèvent la main. Et là, moi, je me dis, hop là, apparemment, il faut lever la main. donc, je lève la main comme les autres. tu vois, on va pas chercher les problèmes à ce moment-là. C'était le premier jour, donc tout le monde lève la main. OK, je lève la main. Mais je savais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, j'en apprenais un peu plus sur les commandos marines. Je me disais, ah tiens, ça a l'air vraiment intéressant, mais ça doit être très très dur. Oula, est-ce que c'est fait pour moi? Je sais pas.
Pourquoi très très dur?
Bah parce que c'est très très dur d'intégrer ce type d'unité. Il faut être plutôt, on va dire, bon voire très bon physiquement. Il faut être bon voire très bon mentalement. Il faut faire preuve de qualité, on va dire. D'un niveau assez élevé, et personnellement j'étais pas tout à fait convaincu d'avoir ce niveau-là à ce moment-là, quoi. Donc voilà, puis au fur et à mesure donc que je faisais ma spécialisation de fusilier marin à l'époque, et ben je voyais le nombre de gars qui levaient la main à chaque fois que les instructeurs demandaient qui était volontaire commando, ça se réduisait, et puis et moi finalement j'avais de plus en plus envie de tenter le coup, quoi. Donc moi je continuais à lever la main, et à la fin on s'est retrouvé, on était plus très très nombreux à lever la main. Mais moi j'étais toujours dans le groupe de ceux qui voulaient tenter le coup. Voilà. Et donc dans les derniers jours, on avait fait des tests physiques, je crois qu'on était repassé devant le psy, etc., etc., pour savoir si on était entre guillemets apte à tenter les stages commando. Et puis à un moment donné, on nous a dit OK, bah maintenant les gars, c'est parti, vous changez de crèmerie, vous allez parce qu'on était dans une grande école à Lorient qui s'appelle l'école des fusiliers marins. Donc là, vous changez de crèmerie, vous passez au département commando, et là c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et puis voilà, puis après c'est le début, quoi.
Ouais.
Et là tu serres les dents.
Ouais, parce qu'en fait les entraînements sont finalement aussi durs que ce que vous vivez sur le terrain.
C'est très dur. Bah là, on te pousse dans tes retranchements. Te pousse vraiment dans tes limites, que ce soit tes limites physiques, psychiques, dans tous les domaines, t'es poussé à fond pour t'obliger à donner le meilleur de toi-même. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans la peau d'instructeur.
Ouais.
Donc j'ai pu voir l'envers du décor. C'est ça, c'est le but, c'est de vraiment que les gars donnent tout, en fait. Et puis de voir aussi à quel moment ils vont craquer, s'ils craquent, à quel moment ils vont craquer.
Voilà. Du coup, pour comprendre pourquoi ils craquent.
Ouais, il y a ça, et puis pour voir aussi quelles sont leurs limites, ce qu'ils ont dans le ventre, en fait, quoi.
Ouais.
Donc bah là, ça passe, tu passes vraiment un mauvais moment, quoi. C'est
t'as
c'est
craqué, toi?
J'ai craqué, moi, pas vraiment, mais je me suis quand même pas mal demandé à un moment donné ce que je faisais là, quoi. Et c'est là où justement il y a aussi ce phénomène de groupe où tu te dis non, faut pas que je lâche, il faut continuer à serrer les dents. Et puis tu te fixes, en tout cas pour ma part, et il semble que ce soit ce qui fonctionne le mieux en règle générale, c'est tu te fixes de petits objectifs, quoi. C'est-à-dire il faut finir la journée, faut tenir la journée, faut tenir la semaine, finir la semaine et ainsi de suite, quoi. Et puis comme ça, de petits objectifs en petits objectifs, t'avances et puis petit à petit, tu te rapproches de l'objectif final.
Ouais, c'est la théorie des petits pas.
Voilà, c'est ouais. Ça, c'est exactement ça. Ouais. Mm-hmm.
Et c'est marrant parce que la théorie des petits pas, tu vois, on en a parlé avec Mathieu Torder, qui est le plus jeune explorateur français, qui a fait une expédition absolument incroyable. Et en fait, c'était, alors à chaque fois, je me trompe, mais bon, l'idée, c'était dans un milieu polaire. Et il disait qu'en fait, il y a un moment, bah, il n'imaginait pas du tout les conditions, que la neige allait être comme ça. Donc, il a pris beaucoup, beaucoup de retard. Donc son ravitaillement était pas du tout prévu par rapport au temps qu'il a mis, et il a commencé à se dire ok, la stratégie des petits pas, chaque heure, enfin voilà, se mettre des mini objectifs, et je trouve que ça s'applique, enfin c'est assez criant quand on en parle, bah dans ton cas ou dans le cas de Mathieu, mais finalement cette stratégie des petits pas, finalement on peut tous l'appliquer chacun dans notre vie. Et d'ailleurs, il faut le faire parce que c'est ce qui permet de se dire, bah, que quand il y a un objectif, bah, que ça soit de changer de métier ou même rien que parfois d'acheter une maison, se dire ok, chaque étape, on l'a passé, et savoir se réjouir de chaque étape aussi, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah de toute façon, sauter des étapes, c'est entre guillemets la meilleure façon de se planter. Ouais. donc voilà. Donc non, faut y aller marche par marche, si je puis dire.
Ouais.
Tu montes pas un escalier en montant les marches 4 à 4.
C'est ça.
Tu peux le faire, mais ouais, t'as plus de chances de tomber.
C'est ça.
Alors que si tu montes les marches une par une tranquillement, en te tenant gentiment à la rambarde, eh ben ça sera peut-être un peu plus lent, mais bon, t'as plus de chances d'arriver en haut, quoi.
Ouais. Et quand t'étais dans la marine avant, j'imagine que quand t'es dans les forces spéciales, il y a plus de moments où ta vie peut être mise en danger que précédemment.
Ouais, bien sûr. Hein. Tu prends des risques en mission, tu prends des risques à l'entraînement, ouais, bien sûr. Alors c'est des risques de blessures ou plus. Ouais, le risque, ça fait partie, c'est ton quotidien, hein, j'ai envie de dire.
Et ça, comment tu l'appréhendais? Parce que
tu l'appréhendes, c'est-à-dire que tu en prends conscience.
Ouais.
Mais après, tu, entre guillemets, bah c'est, tu fais avec, c'est ton quotidien. Donc tu sais que c'est là, tu sais qu'il faut faire attention, qu'il faut être vigilant, qu'il faut faire attention les uns sur les autres, veiller tout le monde veille les uns sur les autres, etc., etc. Et puis, mais tu te focalises pas dessus, parce que si tu ne fais que te focaliser sur le danger, bah tu fais plus rien, en fait.
Ouais.
Donc à un moment donné, et c'est pas le but. Le but, c'est évidemment d'avancer, de progresser,
ouais,
dans tous les domaines. Donc voilà. Donc bah tu sais que c'est là. Il faut faire gaffe, que ce soit à l'entraînement ou en mission. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du métier.
Il y a des moments où t'as eu très très peur.
Des moments où j'ai eu très très peur. Des moments où alors. Pas vraiment de la peur, mais il y a des moments où tu es quand même conscient que ouais, c'est ça va être chaud, quoi. Voilà. Mais après, une fois de plus, c'est pas de la peur, parce que sinon ça serait paralysant et ça serait pas bon. Mais par contre, tu es conscient du danger. Oui, tu es conscient que là, sur ce coup-là, ça va être tendu, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Donc Alors, il y en a qui vont dire que si t'as pas peur, c'est que t'es inconscient. Moi, je dirais pas tout à fait comme ça. Évidemment, il y a une petite partie de peur. Je vais pas dire le contraire. Parfois, oui, il peut y avoir une petite partie de peur, mais il faut savoir passer outre. Et puis, voilà, ça fait partie du boulot, quoi. Ça fait partie du job. Voilà.
Et quand t'as pris ces missions dans les forces spéciales, comment ton entourage, notamment ta maman, elle a réagi?
Moi, j'en parlais pas beaucoup, en fait.
Pourquoi t'en parlais pas beaucoup?
Pour qu'elle s'inquiète pas trop, pour que mon entourage s'inquiète pas trop. Et puis après, t'as toujours un devoir de confidentialité, etc., etc. Donc, t'en parles pas beaucoup dans les grandes lignes. T'en parles dans les grandes lignes, en fait. Ça va, c'est pas trop dur. Non, ça va, ça se passe bien.
Ouais, franchement, c'est, le paysage est hyper joli quand on est.
Ouais, voilà. C'est ça. T'es au fin fond de l'Afghanistan. J'irais bien me faire des petites randos là-bas. C'est super sympa.
Apparemment, le paysage est très beau.
Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est un pays magnifique. Ouais. Ouais, non, c'est très, très beau. Mais, bon, de là à y faire un trek, c'est peut-être pas la meilleure époque.
Ouais, c'est ça. Peut-être plus tard, peut-être un jour, ouais.
Ouais, bah, écoute, faut espérer, hein.
Ouais, bah, c'est clair. Les zones les plus dangereuses où t'es été, c'est l'Afghanistan?
Ouais, je pense que l'Afghanistan, ça a été vraiment, c'était très très dangereux, ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, tu sais que tu pars là-bas pour, 6 mois, 4 mois, tu sais que ça peut tourner au drame à tout moment. Ça peut, ouais. Il faut être toujours dans un état de vigilance. Alors évidemment. Quand t'es sur base, t'es dans un état de vigilance qui est plutôt cool, mais tu sais qu'à tout moment il peut se passer quelque chose, donc voilà. Et puis, dès que tu sors de la base pour aller en opération, t'es sur le qui-vive et puis tu croises les doigts pour que tout se passe bien et que tout le monde rentre à la maison après, quoi.
Ouais. T'as eu à vivre le fait que tout le monde ne rentre pas à la maison?
Ouais, malheureusement, ouais. C'est une expérience terrible, mais c'est comme ça, quoi.
Ouais. Ouais, tu te dis juste que t'as de la chance de toi pouvoir rentrer à la maison, quoi.
Ouais, tout à fait. Hein. C'est ça.
Et t'as été blessé?
Non, jamais.
Non.
Jamais. J'ai eu. je touche du bois.
Ouais.
Ma peau de singe. Non, j'ai jamais été blessé. J'ai eu de la chance, peut-être. Voilà.
Une bonne étoile.
Ouais, c'est ça. Ouais. T'as une bonne étoile au-dessus de ta tête qui fait que ça passe à tous les coups.
Ouais.
Tant mieux. Bah, écoute, ça passe. C'est toujours passé. Peut-être que j'ai su m'arrêter à temps. Je sais pas. Mais non, j'ai jamais été blessé.
Parce que du coup, donc tu disais tout à l'heure que t'es devenu formateur. Donc ça veut dire que t'as arrêté du coup d'être sur le terrain pour devenir formateur ou tu faisais les deux en même temps?
Alors, suite à une mission en Afga qui avait été assez intense, on va dire, là, j'avais demandé à poser un peu les valises. Je me suis retrouvé instructeur pendant à peu près 1 an et demi. Mais l'opérationnel me manquait. Un jour, j'ai les copains qui sont venus me voir, qui m'ont dit il y a une mission qui se prépare, on repart dans 2 mois, ça te dit? Si tu veux, il y a une place pour toi. Et je dis ok, c'est parti. Et je suis reparti.
Ouais,
voilà.
Le manque de l'adrénaline.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je pense, le repartir en mission, le groupe de copains, c'est important, quoi.
Ouais.
C'est important. Et puis, quand t'es en opération, tu vis des choses un peu exceptionnelles. Donc, forcément, là, quand tu te retrouves instructeur, même si c'est extrêmement valorisant et c'est un maillon important de la chaîne, qui est très important parce que tu sélectionnes les futurs membres des forces spéciales, quelque part. Ouais. Les futurs commandos marines, donc c'est un maillon qui est essentiel. Mais tu pars plus en opération, quoi.
Ouais.
T'es un peu sur la touche, donc tu vois les copains partir et toi tu pars pas. Donc c'est pas top.
Ouais.
Et voilà, forcément, on est venu me voir, on me dit écoute, il y a une mission qui se prépare. Si ça te dit, t'as ta place. Ok, c'est reparti. Je suis allé voir mon pacha, je lui ai dit bon ben vous comprendrez bien que je ne vais pas rester.
Ouais. Voilà. Et le fait d'avoir été formateur, est-ce que ça t'a permis, quand tu es retourné sur le terrain, de comprendre des choses différemment, d'appréhender le terrain de...
Non, pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment plu, et ça, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis un moment, c'était de voir un peu l'envers du décor, parce que moi, j'avais été élève, j'avais été, entre guillemets, candidat élève pour le stage commando, mais j'avais dans un coin de ma tête, j'avais toujours eu cette envie de voir aussi l'envers du décor, et donc j'ai pu le faire, donc c'est top.
Et là où donc tu étais rentré pour 3 ans, au final, tu es resté combien de temps?
Je suis resté quasiment 22 ans.
Waouh! Normalement, dans une carrière dans les forces spéciales, on peut y rester toute sa vie? Enfin, comment ça se passe?
Non, tu peux pas y rester toute ta vie. Tu peux y rester très longtemps. Tu peux rester, on va dire, opérationnel très longtemps. Tu vois, moi, je suis resté, j'ai fait quasiment 22 ans. Et j'ai été tout le temps, on va dire, opérationnel, ou presque, à part les périodes où j'étais, entre guillemets, en formation à l'école et tout ça. Donc, voilà. Mais sinon, j'étais tout le temps, prêt à partir en opération. Ouais. Et puis sinon, il y a forcément, à un moment donné, dans ta vie d'homme aussi, une période où, tu sens qu'il est temps de raccrocher les gants et de laisser la place aux jeunes, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Faut passer à autre chose. Donc là, où t'as la possibilité de devenir instructeur ou de passer entre guillemets dans les bureaux. Donc là, tu vas aller pour dans une cellule qui va participer au développement de matériel. Etc. ou à l'étude du matos pour faire tout ce qui est recherche et développement du R&D.
Ouais.
Ou alors tu vas avoir la possibilité d'intégrer un bureau qui va toucher à tout ce qui est l'entraînement des opérationnels, qui est une part importante du métier. T'as quand même d'autres possibilités. Donc t'es plus entre guillemets sur la brèche, mais tu es toujours dans le milieu, quoi.
Et toi, tu t'imaginais faire quoi?
Moi, j'avais pas trop envie finalement d'aller dans un bureau et justement de regarder les copains partir.
Ouais.
Donc, du jour où j'ai quitté, moi, j'ai quitté la marine en fait.
Ouais.
Du coup, du jour où je me suis plus retrouvé opérationnel, j'ai quitté quelques semaines, quelques mois après, j'ai quitté la marine.
Et quand tu dis que tu étais plus opérationnel, parce que physiquement, tu pouvais plus?
Bon, si, je pense que j'en avais encore sous la pédale, mais je pense que il était temps pour moi de passer à autre chose. Si tu veux, moi, quand je suis rentré dans la marine, assez rapidement, j'avais identifié que aux alentours de 40 ans, c'était un âge, on va dire, charnière, que ce soit dans le monde civil ou dans le monde militaire.
Ouais.
Et j'avais pas envie de me retrouver à 40 ans du côté des grincheux qui se retrouvent dans les bureaux et qui ont tendance à beaucoup critiquer les jeunes parce que les jeunes partent en opération et puis
ils sont plus frustrés qu'autre chose, quoi.
Voilà, moi à mon époque c'était mieux parce que nous à l'époque on faisait comme ci, on faisait comme ça. Voilà, et j'avais pas trop envie de me retrouver avec la bande des grincheux, donc j'avais identifié que il fallait quitter aux alentours de la quarantaine. Et en gros, c'est ce que j'ai fait.
Et c'est donc ça, c'était ton choix ou ça a été propulsé par
Non, c'était mon choix.
C'est ton choix, d'accord.
C'était mon choix parce que moi j'étais plus sous contrat.
Okay.
J'avais un genre de c'est un genre de contrat CDI, on va dire.
D'accord.
Donc j'étais plus vraiment sous contrat CDD.
Ouais.
Si je peux comparer ça comme ça, donc j'avais plus cette épée au-dessus de ma tête, du contrat à renouveler. De ce côté-là, j'étais tranquille. Donc au contraire, Non, non, moi, c'est moi là qui pouvais prendre la décision de partir. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah là, il va être temps pour moi de passer à autre chose, quoi.
Et tu avais une idée de ce que ça serait l'autre chose?
Ben oui, c'était parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai quitté la Marine nationale en 2017, fin 2017. Et en fait, en 2014, donc parallèlement, tu vois, j'étais toujours opérationnel, je partais en mission, etc., etc. J'ai commencé des études en sophrologie, à passer, à faire une formation en sophro, voilà.
Donc, formation. Pourquoi la sophrologie, du coup?
À peu près deux ans. Pourquoi la sophrologie? Bah, parce que justement, j'ai lu ce bouquin, La sophrologie pour les nuls. Et je me suis dit, mais c'était ce qui correspondait à ce moment-là, en tout cas, à ce que j'avais en tête, en fait. J'avais lu ce bouquin, je commençais doucement mais sûrement à regarder un petit peu ce qui se passait dans le civil.
Ouais.
Donc tu vois, ça, j'avais lu ce bouquin, c'était genre en 2012-2013, ouais. J'avais lu ce bouquin et je commençais à regarder ce qui se passait un petit peu dans le civil, parce que je savais que bon bah voilà, j'allais pas rester dans la marine éternellement. Et en fait, dès que je commençais à explorer une voie,
ouais.
Tac, ça me ramenait automatiquement vers la sophrologie.
Parce que.
Parce que je saurais pas vraiment le dire, mais.
Et t'as, par exemple, quand t'aurais un exemple?
Je sais pas, dès que j'allais, non, là, comme ça, j'ai pas d'exemple concret, mais, je sais pas, je devais avoir ça dans un coin de ma tête sans vraiment me l'avouer, en fait.
Ouais.
Hop, je commençais à regarder quelque chose et tout de suite je tombais sur un article sur la sophrologie.
D'accord.
Hop, j'allais explorer une nouvelle voie et tout de suite je tombais sur l'interview d'un sophrologue.
OK.
Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, pam, il y avait un truc qui me ramenait vers la sophrologie et à chaque fois, bah, ça me je dirais pas que ça me passionnait mais ça attirait mon attention quoi.
Ouais.
Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, faut arrêter de lutter, hein, faut y aller, quoi.
Ouais.
Et puis, en fait, ça faisait un moment que je travaillais sur moi avec des outils qui pouvaient s'apparenter à de la sophrologie.
D'accord.
Depuis à peu près, 2001, 2002, il y avait je travaillais sur moi, j'utilisais des choses, je travaillais avec la respiration. Je faisais des trucs comme un peu de méditation, de cohérence cardiaque,
ouais.
Voilà des trucs un peu comme ça. Bon, je le faisais un peu, tu vois, je lisais des bouquins, je faisais un peu à ma sauce, je me l'adaptais un peu à ma sauce. Mais quand tu vois, ouais, en 2013, ça devenait un peu plus concret, et puis je commençais vraiment à regarder vers le futur, tu vois, vers ma potentielle sortie de la Marine nationale.
Ouais.
Et ben, je me suis dit, non, mais là, faut que je me forme, en fait. Mmh. Et donc, ben, je me suis orienté vers une école de sophro. Et puis, ça a débuté comme ça, quoi.
Et comment t'as géré, du coup, l'effort spécial plus l'école de sophro?
Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais encore sous un contrat, on va dire, type CDD.
OK.
Et j'avais pas de visibilité sur mon prochain contrat.
D'accord.
Je savais pas trop quel était mon avenir là, pour le coup.
D'accord. Okay.
À ce moment-là. Et en fait, une fois, je suis allé voir mon pacha. Donc, on a la chance, on va dire, dans ce type d'unité, d'avoir notre commandant. C'est assez accessible, tu vois.
Le pacha, c'est le commandant.
Ouais, c'est ça, c'est le commandant. Donc, c'est un système un peu particulier. Donc la hiérarchie est assez accessible, j'ai envie de dire.
Ouais.
Donc je suis allé voir mon pacha, puis je lui ai dit voilà, c'est quoi l'avenir pour moi? Il me dit oh mais t'inquiète, tu vas avoir un nouveau contrat. Je dis oui mais ça c'est vous qui me le dites, mais c'est loin d'être sûr en fait. J'ai dit moi par contre, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, va falloir que je prenne des décisions quoi. Si c'est pas vous qui prenez les décisions, moi il va falloir que j'en prenne. Et quelques temps après, je suis retourné le voir et je lui ai dit, ne sachant pas ce que l'avenir me réserve, il y a cette formation qui m'intéresse fortement, qui était donc une formation sur 2 ans environ,
ouais.
du côté de Rennes. Et là, je lui ai dit, bon bah, est-ce que vous m'autorisez à suivre cette formation en parallèle? Donc là, il a regardé un petit peu le fonctionnement de cette école, parce que je lui ai ramené des documents pour ça. Et ouais. Puis il m'a dit, ok, bah écoute, moi j'y vois pas d'inconvénient. À partir du moment où ça empiète pas sur l'aspect opérationnel, ouais. j'y vois pas d'inconvénient. On fera ce qu'il faut pour que tu puisses suivre ta formation dans les meilleures conditions. À partir du moment où ça empiète pas sur le côté opérationnel, okay. Y a pas de problème. Et donc, j'ai pu suivre ma formation en parallèle.
Ouais.
Et donc, c'était tout en présentiel. Donc, c'était un peu compliqué.
Ouais.
Il fallait que je gère entre les entraînements.
T'habitais où?
Bah, moi, j'étais forcément, donc, à Lorient.
D'accord.
J'habitais à Lorient et donc l'école se situait du côté de Rennes.
Ouais.
Donc l'ISR, l'Institut de sophrologie de Rennes, voilà. Et donc j'allais pendant quelques jours par mois suivre mes formations là-bas.
D'accord.
Ouais. Et le soir, je rentrais, je bossais après les entraînements au sein des commandos, après les entraînements, après tout ça, et ben le soir je rentrais et puis je bossais mes cours, je faisais mes devoirs à renvoyer à l'ISR le soir, etc., etc. Donc c'était un peu tendu, ouais. Tout ça.
Ouais, j'imagine. Il n'y a pas eu de moment où tu as dû partir en mission et.
Et si c'est arrivé. C'est arrivé notamment vers la fin de ma formation, où là en plus on avait une période importante, c'est-à-dire qu'il fallait faire un stage, il fallait proposer un stage, enfin c'était tout un truc. Donc moi à ce moment-là j'avais prévu de faire mon stage au sein d'un club hippique, un club d'équitation. Où là j'avais vu avec le directeur du club pour pouvoir faire mes séances de sophrologie avec donc des cavaliers,
ouais.
J'avais monté tout mon projet bien, truc nickel propre aux petits oignons,
ouais.
Mon directeur de mon école de sophrologie m'avait validé tout ça et donc c'était nickel quoi, c'était vraiment le truc qui était prévu, c'était parfait. Et la veille de commencer mon stage, j'apprends que je dois partir en mission en fait. Et là, c'était le truc, voilà, on partait rapidement en fait. Et donc là, je contacte le directeur de l'institut et je lui dis, écoute Pascal, bon bah voilà, il connaissait évidemment ma situation.
Ouais.
Je lui dis, écoute Pascal, normalement, je suis censé commencer mon stage demain. C'est pas possible parce que je pars en opération. Et là, il me dit, ah mince, comment tu vas faire et tout. Et là, je lui dis, bah écoute, j'ai bien une solution, mais je suis pas sûr qu'elle te plaise. Et il me dit, bah vas-y, dis toujours. Et je lui dis, bah en fait, pour moi, la solution pour pas que je perde de temps dans mon cursus de formation et tout ça, je pars en mission et je fais mon stage. En mission, en opération,
avec mes
coéquipiers, tout ça, ou tout au moins tous les gens qui seraient volontaires pour participer à mes séances. Je lui dis, je te propose ça. Et là, il me dit, écoute, tu me mets ça par écrit, tu me remodules un peu ton agenda, ton truc,
ouais.
Et tu me l'envoies et je te donnerai ma réponse après. Donc je fais ça vite fait, tac tac tac, je corrige mes trucs, mes machins, et puis je lui envoie tout ça et dans l'heure il me répond, ok c'est bon, je valide.
Trop bien.
Donc trop bien. Et donc là on s'est retrouvé à faire des séances de sophrologie avec mes coéquipiers, qui étaient certains n'avaient pas du tout envie de le faire.
Ouais, c'est ce que j'allais demander, comment ils ont appréhendé. Ouais.
Bah c'était sur le volontariat, donc ceux, ouais, qui voulaient participer, et puis ceux que ça intéressait pas, bah venaient pas tout simplement.
Ouais.
Et puis finalement, il y a pas mal de copains qui sont venus, et puis de personnes d'autres unités, tout ça, qui sont venus à mes séances, donc c'était plutôt chouette. Et donc on s'est retrouvé à faire des séances de sophrologie sous une tente au milieu du désert, en opération avec les hélicos qui décollaient pas loin. Donc c'était un peu un peu voilà, c'était particulier, on va dire, mais c'était chouette ouais. D'en garder pareil d'excellents souvenirs. C'était et puis là pour le coup waouh, j'étais moi j'étais même pas sophrologue encore à cette époque-là. Bah là il fallait vraiment s'adapter quoi, donc voilà, c'était chouette. Une expérience.
Et pour financer la formation, du coup, tu as dû la financer avec des économies ou tu as pu avoir des aides?
Alors, la Marine nationale, dans son extrême générosité, ne m'a pas du tout aidé.
Ok.
Je leur ai demandé, mais ils m'ont dit non. Mm. Voilà. Et donc, j'ai tapé un peu à toutes les portes. Parce que je pouvais le financer. J'avais un peu d'argent de côté.
Ça coûte combien la formation?
Je sais plus exactement, mais c'était un peu plus de 6000 euros.
Ouais.
C'était, je pense, pas très loin de 7000 euros pour les 2 ans.
Okay.
Donc, c'était, voilà, c'est quand même une jolie somme.
Ouais.
Sans compter que quand t'étais en stage, il fallait trouver un hébergement, il fallait manger, il fallait ci, il fallait ça, faut acheter tes bouquins. Enfin, voilà, ça représente quand même un bon budget.
Ouais.
Je pense que, tu vois, quand tu mets tout bout à bout, je pense que tu dois pas être loin même des 8000 euros, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Et donc j'ai tapé un peu à toutes les portes. J'ai envoyé des courriers. En fait, tout simplement, j'ai envoyé des courriers à ma mutuelle. Donc
ouais.
ils m'ont donné un petit peu d'argent.
D'accord.
J'ai envoyé un courrier à mon assurance vie. Et ils m'ont donné un peu d'argent. J'ai envoyé une lettre à comment ça s'appelle, à l'ONAC, c'est l'organisme qui gère tout ce qui est les anciens combattants, etc., ouais. etc. Et ben ils m'ont donné un peu d'argent aussi. Et donc bah mis bout à bout, c'est un petit peu plus un petit peu plus un petit peu, bah ça commence à faire pas mal d'argent.
Ouais.
Et donc grâce à ça, j'ai pu financer ma formation.
Ouais.
Voilà. Et je les en remercie encore, tu vois. Ouais, c'était bien. C'était bien.
Et à cette époque-là, à cette époque-là, t'avais une famille?
Ouais, j'avais mes deux petits garçons. J'étais séparé à ce moment-là.
Ouais.
J'avais mes deux petits garçons et puis voilà quoi.
Et t'avais vous avez la garde partagée?
Bah non, parce que moi, au vu de ma situation, on va dire professionnelle,
ouais.
Je pouvais pas me permettre d'avoir la garde partagée à ce moment-là, donc c'était pas envisageable. Je voyais mes enfants pendant les vacances, etc. Donc ça, pour ça, c'était ouais, évidemment, c'était un peu compliqué.
Ouais.
Mais voilà, ça fait partie des choses un peu où tu fais des sacrifices, on va dire.
Ouais.
Malheureusement.
Ouais. Et là, maintenant, du coup, maintenant que t'es sophrologue avec une vie entre guillemets plus posée que dans les forces spéciales, là, tu peux plus les voir tes enfants?
Ouais, bah là maintenant, tu vois, j'ai la garde alternée,
ouais.
Donc là, je les ai à 50-50. Voilà, parce que là maintenant je vis dans le même secteur que la maman.
D'accord.
On va dire, donc là je les ai à 50-50, donc garde partagée, une semaine, donc c'est top.
Ouais. Et maintenant, donc tu vis plus du tout du côté de l'Orient, tu vis à côté de Toulouse?
Ouais, c'est ça, je suis vers Toulouse. J'ai mon cabinet sur Muret. Et puis bah après je bouge un peu à droite à gauche, j'ai toujours la bougeotte un peu quand même.
on se refait pas.
Oh, exactement, on se refait pas. Donc ouais je bouge un peu à droite à gauche, je vais sur Toulouse, je vais sur Bordeaux, et puis je vais là où le vent me mène.
Ouais. Et en changeant du coup quand même radicalement de vie, qu'est-ce que c'était tes peurs?
Oh bah les peurs, c'était peut-être de lâcher finalement des choses, parce que j'étais dans une situation qui était stable, tout ça. Donc voilà, tu lâches, on va dire, de la stabilité pour l'inconnu. Donc ouais. Voilà, mais c'est aussi ça qui est aussi un peu exaltant. Donc c'était ça, je pense, mes peurs. Et puis le truc de pas être à la hauteur. Tu vois, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Le truc de pas être à la hauteur, et puis bah tout simplement de te planter quoi.
Ouais.
Là tu te dis mince, si je suis pas au niveau et que je me plante, bon bah voilà.
Ouais.
Il me restera quoi à la fin? C'est ça.
Et finalement,
c'est ça.
Comment ça s'est passé les débuts ?
Les débuts, tu sais, moi, je suis toujours un petit peu dans les débuts parce que finalement, j'ai quitté l'armée en fin 2017. Donc, on est aujourd'hui en janvier 2021. Donc, ouais. C'était pas il y a 10 ans non plus. Les débuts, c'est lent. Tu te mets à ton compte et puis t'attends tes premiers rendez-vous. Hein. De temps en temps, tu vérifies si ton téléphone fonctionne toujours parce que il se passe des périodes sans que personne ne t'appelle. Ouais. Donc là, tu te dis mais c'est pas possible, ils ont coupé ma ligne ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est juste que personne ne t'appelle. Donc voilà. Donc il faut savoir faire preuve de patience et puis savoir se remettre un peu en question, dire tiens est-ce que je suis bon dans ma com, qu'est-ce qui va pas, sans non plus tout remettre en question à chaque fois parce que sinon si tu passes ton temps à tout changer c'est pas possible. Donc voilà c'est à peu près tout.
Ouais, et surtout puis, que on t'apprend pas le marketing dans la marine.
Ah non, dans les forces spéciales, le marketing, c'est pas trop ça. non, c'est clair. T'as pas de cours de marketing, ça c'est sûr. Donc tu découvres un peu sur le tas, quoi.
Ouais.
Et puis évidemment, tu fais des erreurs et puis c'est comme ça. T'apprends justement en faisant des erreurs.
Ouais. Et du coup, financièrement, comment t'as pu gérer du coup la transition?
Alors financièrement, moi j'ai eu la chance vu que j'avais quasiment fait 22 ans. Ouais. J'ai la chance d'avoir une pension, voilà l'équivalent d'une retraite on va dire, qui est d'un montant correct. Ça plus aujourd'hui mes rendez-vous tout ça, ça va, ça fait que je m'en sors correctement on va dire.
Ouais.
C'est pas encore l'extase. Ouais. Mais je m'en sors correctement, on va dire.
Ouais. Surtout que la sophrologie, aujourd'hui c'est quand même de plus en plus connu, mais à la base, j'imagine que quand tu t'es lancé, c'était pas hyper connu non plus.
Ouais, alors ça, 2017, je dirais que ça commençait à avoir sa petite notoriété, la sophrologie quand même. Ça devient de plus en plus connu, mais peut-être c'est le petit bémol que je mettrais, c'est que vu que c'est pas une profession réglementée, il y a beaucoup de sophrologues, on va dire.
Ouais.
Peut-être un peu trop, même à mon goût. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Et puis j'ai envie de dire, les personnes qui viennent voir des sophrologues après font le tri d'elles-mêmes. Donc c'est comme ça.
Toi aujourd'hui, du coup, t'es sophrologue et préparateur mental.
Ouais, tout à fait. C'est ça. Quand j'ai quitté l'armée assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des skippers.
Ouais.
Donc des personnes qui se préparaient pour la route du Rhum, la Jacques Vabre, etc., etc. Donc voilà, moi à ce moment-là, j'étais peut-être pas forcément la meilleure personne pour travailler avec eux parce que j'avais pas forcément tous les outils à ce moment-là et je leur en ai fait part d'ailleurs. Mais on a quand même, ils ont fait le choix de travailler avec moi, donc à mon grand plaisir. Parce que c'était vraiment super. Donc j'avais eu l'occasion de travailler notamment avec Lalou Roquerol, qui est un des vieux briscards du circuit de la voile. Donc c'était super. Finalement, ça a suscité en moi beaucoup de questionnements sur ma pratique en tant que sophrologue. Et puis aussi vers la préparation mentale.
Ouais.
À nouveau, j'ai fait le choix de me former.
Ouais.
J'ai fait une formation d'un an sur Bordeaux dans une école qui s'appelle Focus. J'ai fait une formation de préparateur mental.
Ouais.
Voilà.
Parce que du coup, maintenant, il y a des écoles pour ça, parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer Thomas Samut, qui est le premier préparateur mental en France. Lui, à l'époque, il n'y avait pas de formation. Il a fait des formations de PNL, enfin, de différentes techniques. Ouais. Mais le métier de préparateur mental, c'était le premier coach, la première personne à se faire embaucher par un club en France. Et à cette époque-là, ça existait pas, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais malgré tout, de toute façon, même si maintenant il y a des écoles, je pense que avant tout, c'est quand même un métier qui s'apprend quand même sur le tas, faut y aller, faut mettre les mains dedans, faut pratiquer, et forcément, tu commets des erreurs, et puis c'est comme ça que tu deviens meilleur, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais c'est vrai dans tous les domaines, de toute façon.
Bien sûr, de toute façon, t'apprends tout. Chaque métier s'apprend à tâtonnant. Tu fais des erreurs et personne ne naît en sachant tout. Enfin, on dit souvent, t'apprends à marcher, t'apprends à parler, t'apprends.
Tout à fait. Ouais, bien sûr.
Ouais. Et
donc là, c'est sûr que ça te donne le fait de passer ce type de formation. Et ben évidemment, ça te fait un apport de connaissances supplémentaires. Ça te fait un apport d'outils supplémentaires. Mais après, il n'y a pas de secret. Il faut mettre en œuvre ces outils, ces connaissances, et puis tu fais petit à petit tes propres expériences, et puis t'avances comme ça, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, en termes de temps, tu passes plus de temps sur la préparation mentale ou la sophrologie, ou finalement tu te sers des deux pratiques
Ouais, moi je me sers des deux pratiques. Je me sers des deux pratiques parce que forcément. La sophrologie, la préparation mentale, elles ont des bases communes, je dirais. Tout ça, c'est des connaissances qui, à un moment donné, viennent se compléter les unes aux autres.
Ouais.
Donc forcément, moi, quand je suis avec quelqu'un, je regarde pas forcément. À la limite, quelle est sa demande? Évidemment, je la prends en compte, mais surtout, je vais essayer d'utiliser l'outil, si je puis dire, le plus adapté. Donc après, je regarde pas si c'est un outil de sophrologie,
si c'est un
outil de préparation mentale. Je prends l'outil qui est le plus adapté, enfin en tout cas qui me semble le plus adapté sur le moment.
Ouais. Voilà. Et pour les gens qui connaissent pas la sophrologie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors. Au début, j'avais du mal à définir la sophrologie parce que, en fait, l'étude de la conscience, tout ça, ça parle pas trop aux gens. Et finalement, je crois que la meilleure explication que j'ai trouvée, mais finalement, maintenant, je parle d'un iceberg. Je dis voilà, t'as un iceberg, t'as la partie qui est visible de l'iceberg, qui est hors de l'eau. Donc ça, c'est la partie que les gens voient, que les gens peuvent percevoir. Ça va être au travers de ce que je représente visuellement, au travers de ce que je peux dire, de ce que je peux faire, mes actes, etc., etc. Et puis il y a la partie qu'on ne voit pas, tu vois, la partie immergée, qui est un peu ce qu'on pourrait dire, c'est la partie inconsciente finalement, ou non consciente. Et cette partie là, c'est cette partie là qu'avec la sophrologie on va aller un petit peu explorer, si je puis dire.
Okay.
Voilà. Donc c'est un outil qui va nous servir pour aller un peu explorer cette partie immergée.
Ouais.
Alors, je dis un outil, je sais que ça plaira pas à certains sophrologues, mais parce que c'est un peu vulgariser la chose, mais voilà, au moins ça parle bien à tout le monde.
L'interview que je vais diffuser là cette semaine, c'est avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue. Donc son métier, c'est d'être docteur des glaciers. Et elle s'est tournée, après avoir fait de la recherche, elle s'est tournée sur la communication scientifique. Et en fait, elle est très très mal vue de l'univers des glaciologues et donc des scientifiques, parce qu'elle vulgarise et elle démocratise tout ce qui est toutes les recherches pour faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre, parce qu'elle dit c'est super de publier dans un magazine où personne ne comprend, des magazines scientifiques, mais si on veut pouvoir soigner les glaciers, ça va être de la prévention, et du coup c'est le commun des mortels. Et c'est marrant parce qu'en effet, dans certains univers, on n'aime pas vulgariser les choses, mais finalement c'est important quand même de vulgariser les choses, parce que c'est quand même le grand public qui en est la cible.
Bien sûr, pour moi, ça me paraît évident, mais bon, après, tout le monde peut avoir son avis là-dessus.
Chacun son approche.
Exactement.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
Ouf, je sais pas trop. Je dirais que c'est d'être au clair avec soi-même. bien dans sa tête, bien dans son corps, à l'aise dans ses baskets, et puis surtout que quand tu te regardes devant le miroir, tu voilà, c'est tu tournes pas le regard, tu vois. Je pense que voilà, ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est d'être en accord avec soi-même, avec ses valeurs. Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr pour moi, en tout cas, c'est que c'est pas avoir des chiffres avec beaucoup de zéros sur son compte, quoi. Sur son compte bancaire, si c'était ça la réussite, bon bah ouais, moi ça me parle pas trop en tout cas, pas comme ça en tout cas. Je pense que ouais, pour moi la réussite c'est plutôt ça, c'est plutôt être voilà, quand t'es devant le miroir tu peux te regarder dedans, quoi.
Ouais. Je repense à une chose, à tout à l'heure tu disais donc que tu avais fait ton stage avec tes coéquipiers, est-ce que tu en as converti du coup à la sophrologie?
Converti, ouais, plus ou moins, parce que je sais que pour en avoir rediscuté quelques temps après le stage, je sais qu'il y en a qui continuaient à pratiquer tranquillement un peu de respiration, un peu de d'imagerie mentale, ce genre de choses. Donc ouais, et il y en a qui ont adhéré et qui continuent un peu à pratiquer.
Ouais, cool. Ouais. Qu'est-ce que tu
ça
penses
fait,
que les...
Ça fait des émules, ça fait des émules.
Ouais, ça, vous t'as senti que du coup ça avait changé quelque chose dans la mission?
Alors dans la mission, en tout cas, ça a été l'occasion d'avoir des moments un peu privilégiés, je dirais.
Ouais.
Parce que notamment quand il y a eu des périodes dans la mission où il y a eu des moments difficiles.
Ouais.
Il y a eu des moments ouais qui ont été très compliqués, tu vois. Il y a eu par exemple le décès de deux personnes qui sont voilà, qui deux gars qui sont morts lors d'une opération, avec un troisième qui était gravement blessé, et donc là évidemment bah tu vois ça met vraiment un coup au moral à tout le monde.
Ouais.
Et ben ça a pu être un espace de parole, tu vois. Voilà, ça a été un temps privilégié pour faire un peu le point, savoir comment tu te sens dans cette période que tu traverses, qui est un peu compliquée, voilà. Et puis pas longtemps après, donc là il y avait eu les attentats du Bataclan, parce que là moi, ouais, tu vois, j'ai été diplômé en 2016, donc les attentats du Bataclan c'était de mémoire en 2015.
Si ma mémoire je suis pas bien, très forte sur les dates.
Ouais, moi non plus. Mais, voilà, grosso modo, c'était ça. Et donc, on a eu, il y avait eu les attentats du Bataclan. Et donc, quelques temps après, tu vois, je l'ai pas fait trop rapprocher pour que, bah, malheureusement, les gars aient le temps un peu de digérer ça.
Ouais.
Parce que nous, on les avait vécus en direct à la télé. On était à l'autre bout du monde.
Ouais.
Et ben, quelques temps après, on a pu. Donc j'ai dit ok, bah les gars, si ça vous intéresse, je fais une séance de sophro s'il y a des volontaires. Et là il y a pas mal de gars qui sont venus.
Ouais.
Et pareil, ça a été un peu un espace de parole, un moment un peu privilégié pour pouvoir déposer des choses, tu vois, un petit peu au niveau émotionnel, voilà, dans cette période un peu compliquée, voilà. Donc ça a été, ouais, ça a été des moments, il y a eu des moments forts, un peu des moments un peu charnière dans cette, ouais, dans cette mission, qui grâce à ces petits moments de sophro ont pu être peut-être un petit peu mieux digérés, je dirais.
Ouais. Et il n'y a pas eu de réticence sur bah non, mais façon, enfin en gros c'est laisser potentiellement ouvrir une porte sur ses émotions et il faut qu'on soit fort, donc faut pas laisser transparaître ça.
Je dirais que non, parce qu'en fait alors je dirais pas qu'il y a que des gens intelligents au sein des forces spéciales, hein. C'est pas ça. Mais en tout cas, je pense que c'est des gens qui ont un niveau de maturité suffisamment élevé pour comprendre que le fait d'être proche de ses émotions, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
D'accord.
Et c'est pas parce que tu vas pleurer que t'es faible, par exemple.
Ouais.
Tu vois. Voilà. Donc non. Quand j'ai proposé la possibilité de faire ces séances de sophro. Alors qu'on était en mission,
ouais,
ça a été plutôt bien accueilli par les gars. Et puis une fois de plus, voilà, c'était juste sur la base du volontariat. Donc, bah, les gars qui voulaient venir tester pouvaient venir. Et puis voilà. Donc, Donc non, non, il n'y a eu aucune réticence.
Ouais. Et ton pacha, à cette époque-là, quand tu as dit « voilà, j'aimerais faire le stage », parce que du coup, tu avais eu le OK de l'école, mais du coup, il fallait de l'institut. Donc après, il fallait le OK du pacha.
Ouais, c'est ça. J'avais demandé à ce que ce soit mis noir sur blanc, ouais. L'autorisation. Quand même, j'avais dit « voilà, si vous pouvez me mettre ça sur le papier ». Ouais. Comme quoi, je suis autorisé à faire mes séances de sophro, ça me va bien. Et puis non, ça a été non, mais franchement, ça a été bien accueilli de la part de tout le monde. Hein.
Ouais.
Personne n'y a vu de réticence particulière.
Super.
Donc non, ça a plutôt été positif.
Cool.
Et tu vois aujourd'hui au sein des commandos marines, il y a même une cellule qui est en train de se développer, si je puis dire,
ouais.
Qui est orienté sur l'optimisation du potentiel humain. Donc, dans cette cellule, il va y avoir de la kiné, de la réathlétisation, il va y avoir de la préparation mentale, de la préparation physique, etc., de la sophro, par exemple. Voilà. Donc, tu vois, c'est petit à petit, les choses font leur chemin, en fait.
Ouais. Et ça, du coup, toi, tu fais partie de ce projet ?
Alors, moi, aujourd'hui, je suis réserviste donc pour la Marine nationale, pour les commandos. Ouais. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
Ouais. Ouais. Génial.
En toute modestie, hein, mais si je peux apporter ma petite contribution, et ben c'est avec plaisir que je le fais, bien sûr.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Julien de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ?
Prends ton temps, mais écoute ta petite voix, ouais, c'est ça, c'est prends ton temps et puis écoute ta petite voix et puis fonce quand il faut foncer, voilà. Ouais, non, je dirais que ouais, c'est à peu près ça.
Ouais. Qui dit choix dit renoncement. Du coup, c'est quoi toi tes renoncements aujourd'hui?
Bah, mes renoncements, c'est en quittant la marine, j'ai un petit peu renoncé quelque part à voir mes copains, à voir mes amis, mes frères d'armes, tu vois, et les gars avec qui j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. J'ai renoncé aussi à un mode de vie, parce que quelque part, c'est un mode de vie. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'un métier en fait. C'est un mode de vie en fait.
Ouais.
Donc voilà. Donc j'ai renoncé à ce mode de vie pour une vie plus stable, avec moins d'aventures, moins d'adrénaline, tu vois. Voilà. Et puis voilà. Ouais. Grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça.
C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser du coup dans ta vie ?
Les plus grandes difficultés ?
La plus grande ?
Je sais pas trop. La plus grande difficulté ou les plus grandes difficultés, bah tu vois, quand je suis rentré dans la Marine nationale, bah pour accéder au commando marine, bah t'as le stage commando, hein, donc là c'est très très dur.
Ouais.
Donc ça fait partie des plus grandes difficultés, mais en même temps c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de mieux me connaître, donc voilà. Et puis les plus grandes difficultés, c'est des fois sur certaines opérations, tu vis des moments très très difficiles, tu vois, notamment en disant ça, je pense au décès de certains camarades.
Ouais.
Certains camarades, mais qui sont aussi des copains, des amis, voilà. Donc ça fait partie des choses de la vie qui sont des moments, je dirais, un peu charnières. Voilà. Et puis le reste, c'est pas grave, ça passe.
Ouais.
Tu vois, quand t'as des difficultés financières, et ben voilà, c'est comme ça. L'argent, ça va, ça vient. Quand t'as des difficultés dans ta famille, c'est pas grave, tu fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux un peu plus tard, et puis voilà. Ouais, le reste c'est pas très grave en fait. C'est
ouais.
Voilà. En tout cas pour moi, c'est ma façon de voir les choses.
Ouais.
Quoi.
Et d'ailleurs, quand t'as perdu des frères d'armes sur le terrain, jamais tu t'es dit faut que j'arrête, faut que je sauve ma peau, je suis papa.
Non, non, non.
Non.
Non, 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 non. Non, non, je me suis jamais dit ça parce que je me suis peut-être dit inconsciemment bon, faut que tu fasses attention. Maintenant, t'es papa, tout ça, donc faut faire gaffe. T'es plus tout seul, on va dire. Mais faut que j'arrête, non, jamais. Non, 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 je me suis jamais dit. Ouais. Non, non. Non, parce que t'as une mission, tu t'entraînes pour ça. Il y a des gars avec qui tu t'entraînes, en qui tu fais confiance. Ils te font confiance. Non, non, c'est comme ça.
Ouais.
C'est un mode de vie. Et puis à partir du moment où tu commences à avoir des doutes dans ce genre de job, je dirais, ben c'est que peut-être à un moment donné, il faut faut s'en aller, quoi. C'est le moment peut-être de poser les gants, tu vois.
Quand il y a un doute, il y a plus de doute.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute, quoi.
Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Moi, je dirais, je sais pas trop. Je suis fier d'avoir appartenu à cette famille ou d'y appartenir encore un peu, peut-être. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier d'être sophrologue aujourd'hui. Je suis fier d'être préparateur mental. Je suis fier de mes enfants, de ma famille. Je suis fier de beaucoup de choses, voilà. Mais en même temps, c'est des choses simples, je dirais. Enfin, voilà.
Ouais. Et là, je repense à ça aussi. La conchi, je vais vraiment pas y arriver.
La conchi.
Ouais, ça. Jamais, du coup, t'auras utilisé tes connaissances.
Jamais, j'aurais utilisé mes connaissances. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. Mais bon, écoute, on sait jamais, hein.
Ouais, la vie n'est pas finie.
Exactement. Ouais. Je sais que j'ai les huîtres à Noël, voilà.
Ouais.
C'est déjà pas mal.
Ouais. C'est un bon début.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croiserais maintenant et qui te dira, mais génial, tu as fait une reconversion professionnelle, tout se passe bien, tu en es là grâce à de la chance, uniquement grâce à de la chance?
Je pense que je lui dirais que non. Je pense que je lui dirais que est-ce qu'il y a un facteur chance? Oui, certainement. Maintenant, l'idée, c'est que le facteur chance soit réduit au plus petit possible, on va dire.
Ouais.
Parce que non, à chaque fois il y a du boulot derrière tout ça. Il y a, tu vois, commando marine, t'y arrives pas par hasard. À un moment donné, si tu ne te donnes pas les moyens d'y arriver, bah t'y arriveras pas, ça c'est sûr. La sophrologie, c'est pareil. Il y a du boulot, hein. Comme je disais, pendant que certains dormaient, et ben moi je bossais, voilà. Et puis non, il y a du boulot quand même, il y a du boulot.
Ouais.
même si on dirait pas, il y a quand même un peu de taf derrière tout ça.
Ouais. Ouais.
D'ailleurs, comme je dis tout, tu vois, là plus tard qu'hier matin, j'ai fait une intervention dans un lycée, pour des jeunes qui sont un petit peu qui ont des petites difficultés, on va dire. Je leur ai dit justement, vous savez, avant, je suis peut-être un petit peu toujours, mais avant de rentrer dans l'armée, j'étais un gros branleur. Là où j'ai dû vraiment commencer à ouvrir des bouquins, c'était quand j'étais dans la marine. Parce qu'à un moment donné, si je voulais réussir au sein de cette institution, j'ai pas eu le choix. Il fallait vraiment que je bosse.
Ouais.
Durant mes différentes formations que j'ai pu suivre, il fallait bosser, quoi. Il fallait bosser. Donc il y a peut-être un peu de chance derrière tout ça, tu vois. Je me suis jamais blessé.
Ouais.
Je suis toujours passé un petit peu au travers des catastrophes, mais il y a un petit peu de chance, mais il n'y a pas que ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Je sais pas, j'irais peut-être sois plus souple avec toi-même. Sois plus souple avec toi-même, sois plus souple avec les autres aussi, parfois. Apprends à être un peu plus à l'écoute. Voilà.
Mais, pourquoi plus souple ?
Oh, bah parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait preuve d'un peu de rigidité dans certaines, à certains moments de ma vie. Ouais. Et alors, est-ce que ça m'a porté préjudice parfois ? Je ne sais pas, mais je saurais pas le dire. Mais en tout cas, avec le recul, voilà, c'est ce que je me dirais. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis. Mais bon, en même temps, voilà, il n'est jamais trop tard pour s'améliorer.
C'est sûr. C'est quoi tes prochains défis ?
Mes prochains défis. Là, tu vois, je commence une formation en coaching avec une école sur Bordeaux là qui s'appelle Amnos. Okay. J'espère que ça se passera bien, mais normalement ça devrait bien se passer. J'imagine que ça devrait bien le faire. Voilà, toujours dans cet esprit, tu vois, d'avoir un apport de connaissances, de pouvoir toujours mieux structurer ce que je fais, tout ça. Voilà, c'est moi, à mon sens, il faut toujours continuer de se former, tu vois, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Et puis avancer tranquillement à mon rythme, on va dire.
Parce que là, du coup, une fois que tu auras ce diplôme de coach en plus, qu'est-ce que ça, évidemment, ça t'apporterait de la technique, mais comment tu veux l'exploiter en plus ?
Je sais pas, on verra. Mais non, moi, j'y vais. Cette formation, j'ai pas envie de la suivre pour, entre guillemets, le diplôme. Cette formation-là, j'ai envie de la suivre parce que je sais que cette école, elle est intéressante. On y apprend plein de choses. Et donc, c'est pour les connaissances que j'y vais. Après, le diplôme, concrètement, ça changera rien à ma vie, tu vois.
D'accord.
Par contre, je me dis, dans tout ce que tu fais, il peut toujours y avoir des petits trucs à prendre. Donc ce sera toujours, quoi qu'il arrive, ce sera intéressant en fait.
Ouais.
Et puis ce sera toujours l'opportunité de rencontrer des gens, de faire de nouvelles connaissances. C'est toujours un apport. Voilà.
C'est une formation qui dure combien de temps ?
Alors j'ai plus. Je crois que c'est sur 5 ou 6 semaines.
Ouais.
Donc c'est des semaines complètes par contre.
D'accord.
Uniquement en présentiel. Ça devrait être, je pense, très intéressant.
Ouais. Et donc ça, ton métier de sophrologue qui te permet de financer cette formation, ou t'as des aides aussi pour ça ?
Je vais me débrouiller.
Ouais. Parce que là, ça veut dire que pendant 5-6 semaines, tu peux plus pratiquer ta pratique.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben ouais, je me débrouille, je mets un petit peu d'argent de côté et puis voilà. Et puis ça fait partie des frais de fonctionnement, on va dire.
Ouais. OK. Voilà. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Je dirais merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et puis qui m'ont donné ma chance quoi. Donc voilà. Je dirais merci à mes parents, merci à ma famille, merci plus généralement aux gens qui m'ont donné ma chance ou qui m'ont fait confiance, tout simplement. C'est une question difficile, ça.
En fait, cette question, avant de lancer le podcast, je me suis rendu compte que c'est une question qu'on pose quasiment jamais. Et qui pour moi est hyper importante parce que dans un parcours de vie, il y a forcément des personnes qui nous ont des rencontres, des personnes qui nous ont aidés, mais même sans s'en rendre compte. Et la gratitude étant, j'en ai pris conscience en lisant beaucoup de choses depuis le lancement du podcast. Mais quand j'avais lancé le podcast, j'avais absolument aucune idée de l'importance de la gratitude dans le bien-être et dans le bonheur. Mais c'est fou parce que tu disais tout à l'heure que la sophrologie revenait un peu partout. Et tu vois, cette semaine, à chaque fois que je lis des trucs, il y a la gratitude, elle arrive dans plein de trucs qui n'ont rien à voir. Je fais, il y a un truc là-dedans.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ouais, vraiment, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a su me donner une éducation, je dirais, correcte. Voilà, donc, je les en remercie. Ma mère a toujours, enfin, mes parents ont toujours veillé à ce qu'on ne manque de rien. Donc, c'est pareil, je les en remercie aussi, même si ça n'a jamais été facile. Et puis après, dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré des gens super, j'ai rencontré des gens moins bien. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, d'autres non. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la vie. J'ai envie de dire que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, familiale et autres. Il y a plein de petites étapes comme ça qui font que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que savoir dire merci, c'est aussi important. Ouais. Ouais. Et puis moi aussi, pourquoi pas?
De dire merci à toi.
Je me dis merci à
moi-même. Bien sûr. Bah, il faut clairement. Ouais. Clairement, clairement. Merci beaucoup, Julien, pour ce super moment, ce super témoignage, et puis.
Avec plaisir.
À très vite.
Ok. À bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour avoir le lien. Pour suivre Julien, vous l'aurez compris, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co, le blog et sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?